بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون شفاعه الإسلام nous remercions Allah عز وجل qui nous donne la possibilité ce soir de reprendre le durus sur le tafsir. C'est là une faveur de la part d'Allah عز وجل que de s'asseoir, se rassembler pour écouter la parole d'Allah et essayer de comprendre le sens profond de chaque verset, avec pour objectif d'essayer, inshallah, de mettre ces enseignements en application. Voilà la méthode d'apprentissage du Coran des Sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in. Un apprentissage du Coran qui transite obligatoirement par la méditation sur le sens des versets, qui ne se limite pas à la lecture, lire, comprendre et essayer de mettre en application. Voilà donc l'objectif de nos assemblées. Et si avant cette longue période d'interruption, subhanallah, on a dû poser 2 mois à peu près tafsir, on est sincèrement désolé. On va essayer de se rapprocher un petit peu, mais on n'a pas besoin de parler trop fort. Il y a eu un moment d'interruption. Par la grâce d'Allah, on a pu faire un programme en métropole, donc à Paris. On y était au mois de mars et donc ce séminaire nécessitait une certaine préparation. Donc on a dû faire l'impasse sur pas mal de programmes, que ce soit les programmes du vendredi soir ou du lundi soir, mais également du mardi. Et donc, alhamdulillah, on va essayer à partir d'aujourd'hui, on est le premier Rajab, donc c'est l'occasion aussi, on essaie de rester ferme sur ces programmes Rajab, Sha'ban, jusqu'au mois béni, inshallah, tous les vendredis, qu'Allah nous donne istiqama. Juste une petite parenthèse sur quelque chose qui nous a particulièrement marqué, on peut dire, durant ce safar, durant ce voyage, à Paris précisément, en métropole, donc c'était à Paris. On a eu l'occasion, alhamdulillah, d'être présent et d'avoir en face de nous un public varié, de tranche d'âge entre 25 et 35 ans. Il y avait pas mal de monde. Et je retiens 2 choses. Premièrement, je retiens qu'il y avait majoritairement des dames. Et je pense que si on assiste à un retour de la pratique, de la ferveur, de la pratique religieuse chez nos frères et sœurs musulmans en métropole, c'est entre autres, Wallahu A'lam, par l'implication des dames. Je pense qu'à partir du moment où une femme va apprendre la religion, elle va s'instruire, elle va renouveler ses connaissances, renouveler sa foi, son iman, l'augmenter, elle va renforcer son socle spirituel, cela va rejaillir sur l'ensemble de la famille. Une maman pieuse, c'est une maman qui donnera une bonne éducation aux enfants. Une maman qui ne connaît rien de la religion, une maman qui, une jeune musulmane, ou alors moins jeune, peu importe, qui connaît l'islam que par les prières et le ramadan, sans connaître vraiment le sens profond de la soumission à Allah Azza wa Jal, comment voulez-vous est-ce que cette maman transmette les valeurs de l'islam à ses enfants dans l'éducation ? Lorsqu'on a vu le prophète alayhi salat wa salam enseigner les bases de la foi à Ibn Abbas radiallahu anhuma, de le hadith qu'on a alhamdulillah commenté dans Riyad al-Salihin, où le prophète salam a enseigné à Ibn Abbas, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu t'en remets à Allah, protège le dîn d'Allah, Allah te protégera, sache ô mon enfant, si les gens veulent te faire du mal mais tu as la protection d'Allah, personne ne pourra te faire au-delà de ce qui est écrit dans ton taqdir. Sache que après chaque épreuve de difficulté, il y a l'aide d'Allah. sache que l'aide d'Allah vient avec la patience et ainsi de suite. Ces enseignements très spirituels, le prophète ne l'a pas enseigné comment prier, comment se tenir de la génuflexion, de le sujoud. Il y a eu d'autres mawaqif, il y a eu d'autres situations où le prophète a enseigné la salah. Mais là, c'était faire passer le message vraiment spirituel, créer la relation entre le cœur du croyant et son Seigneur. Et si on n'a pas réussi à créer cette relation, on aura du mal à greffer les bonnes actions. Alors même si on a les bonnes actions, mais on ne connaît pas notre Seigneur, on n'a pas créé un lien, on pourrait presque dire intime, un lien profond entre nous et notre Rabb, je crains que les bonnes actions qu'on va accomplir, ça risque de rester du gestuel ou alors des pratiques culturelles même parfois, et il n'y a pas vraiment de fond. On voit bien des gens qui remplissent les mosquées durant le mois béni de Ramadan, et lorsque le Ramadan est terminé, aussi vite et aussi nombreux qu'ils étaient arrivés, aussi nombreux ils quittent les mosquées, ils ne reviendront plus avant un an. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème si une personne est capable de jeûner 29 ou 30 jours, si une personne est capable, salam, de rester assidue aux prières en congrégation durant un mois et aux prières longues de la Tarawih, et que la personne ne trouve aucun mal le 2 Shawwal à tout abandonner, c'est que au fond, il n'y a pas une réelle croyance en Allah. Le gestuel y est, les actions les accomplit, mais ça manque, il manque quelque chose. Et je suis persuadé que la clé, c'est la tarbiya, l'éducation. Et l'éducation, encore une fois, ça ne se limite pas aux ordres ou aux interdits. C'est pas uniquement tu réveilles ton fils, tu l'envoies à la prière, tu réveilles tes enfants, tu les envoies à la madrasa à 6h30 le matin, tu les obliges, entre guillemets, à faire hifz. On va dire que là, on leur donne des bases, on leur donne toutes les chances pour réussir. Mais l'éducation islamique, ça ne se limite pas à ça. C'est transmettre à l'enfant l'amour d'Allah. Aham shay. Plus important, c'est que cet enfant grandisse et que dans son cœur, son idéal, c'est obtenir le contentement d'Allah. Ça doit être son rêve. Que à chaque étape de ta vie, à travers chaque bonne action que tu accomplis, fais en sorte que tu te rapproches d'Allah. Mais fais toujours des actions pour qu'Allah t'aime. Hada. Et inculquer la crainte d'Allah aux enfants. Rappeler aux enfants que si tu fais des bêtises, si tu fais telle chose, même si papa, maman ne te voit pas, le professeur, le fundi, le moulissab ne te voit pas, mais Allah est au-dessus de toi, Allah te voit. Et responsabiliser l'enfant. Il réalise qu'au-dessus de lui, il y a Allah Azza wa Jal. Ça se fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de muhabba, dans une relation de confiance, dans des moments de partage mutuel, on peut véhiculer ce genre de message. Mais dites-moi, qui va le faire? Le papa? On est au travail, on a des soucis, on est dans les embouteillages, on est à droite, à gauche. C'est difficile. Tu rentres chez toi le soir, tu es saturé. Tu as besoin d'une seule chose, un peu de calme, un peu de silence, un peu de repos. Et ensuite, tu prends ton dîner, tu viens à la masjid. Et en sortant de la masjid, on est fatigué, on veut dormir ou autre chose. C'est pas en week-end ou dans les vacances qu'on va éduquer nos enfants. Si on attend août et janvier pour éduquer les enfants, ça ne va pas aller. La clé, c'est la maman. Parce qu'elle, normalement, elle a le temps disponible pour ses enfants. Et elle doit passer plus d'heures avec ses enfants que les enfants passent d'heures avec le professeur à l'école ou avec les amis dans la rue. Et s'il y a une relation très forte entre la maman et l'enfant, ben, la maman pourra transmettre ses valeurs aux enfants. Et un jeune qui grandit avec ses valeurs, on a beaucoup d'espoir que c'est un jeune qui restera dans le droit chemin. On a espoir que ce jeune fera partie des gens qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal parce qu'ils auront passé leur jeunesse de l'obéissance d'Allah. À la base, il y a la présence de la maman, la présence physique, la présence sur le plan humain, ce que la maman peut apporter en termes d'amour, de ce qu'il faut que la maman soit disponible, et la présence spirituelle. Donc, je suis d'avis, wallahu alam, ce n'est qu'un avis, une analyse avec beaucoup de recul. S'il y a une telle motivation de la part des sœurs en métropole pour la religion, pour apprendre la religion, je pense qu'alhamdoulilah, on peut avoir beaucoup d'espoir. On est optimiste que ce sont des personnes qui vont avancer dans le dîn avec des bases solides. Parce que chaque pas qu'ils vont faire, ce sera un pas sûr, un pas solide, basé sur la connaissance religieuse. Et on voit également dans le niveau des échanges, le niveau des questions, ce sont des personnes qui sont instruites religieusement, qui lisent beaucoup, chose que nous ne faisons pas. Le booking, on voit qu'il y a la lecture, on voit qu'il y a un socle ilmi de connaissances religieuses, et jour après jour, ce sont des personnes qui apprennent, qui vont lire Ibn Kathir, qui vont lire les livres de hadith. Donc Bushra, c'est vraiment une bonne nouvelle, et je suis persuadé également que c'est par le biais de la connaissance religieuse qu'on pourra chasser toutes les tendances déviantes de l'islam. Quand je parle des tendances déviantes, bien sûr, on parle des bid'ahs, des innovations, des appels vers le fisq, vers les péchés graves et ainsi de suite, la banalisation des péchés, mais bien au-delà de ça, tout ce qui se passe en Europe depuis quelque temps avec des personnes qui monopolisent le nom de l'islam et mettent cette étiquette islamique sur des actes qui ont d'autres objectifs. Honnêtement, le français moyen, il l'a compris, je pense. Je pense qu'il a largement compris que ça, c'est pas le musulman qui va à la mosquée qui accomplit tout ça. Je pense que, au fur et à mesure, hein, on n'a pas affaire à des gens incultes, ils comprennent. Et je suis persuadé que le musulman qui apprend sa religion et qui va vivre avec les principes de son dîn, et donc, vous savez, quelqu'un qui a le ilm et qui connaît c'est quoi le bon comportement, parce que vous savez, entre pratiquer et avoir le bon comportement, parfois il y a un gouffre. Nous connaissons tous au moins une personne qui est très sérieuse dans ses prières, dans sa lecture du Coran, mais qui dans le travail, c'est vraiment une personne qui est impossible à vivre. Dans les relations familiales, c'est quelqu'un qui a un comportement insupportable, ou dans la relation du couple, alors que cette personne est au premier rang de la mosquée, à lire le Coran. Donc on va dire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. On ne peut pas lire des versets qui sont porteurs de certaines valeurs et ne pas les appliquer à la sortie de la masjid. Il y a une incohérence. Ben pour pallier à cette incohérence, la solution c'est al-ilm, la connaissance religieuse. Parce que la personne qui lit, on va dire un juz par jour, maintenant imaginez que la personne lise un juz avec une compréhension du texte, avec le contenu, et que le contenu touche son cœur et qu'il arrive à le mettre en pratique, cet homme deviendra le meilleur des époux. Cet homme deviendra le meilleur des papas, il sera le meilleur des grands-pères, il sera le meilleur des patrons, hein, s'il a une entreprise, ou le meilleur des collègues, et ainsi de suite, le meilleur des voisins, le meilleur des citoyens. Parce que notre religion vraiment véhicule les meilleures valeurs que les civilisations ont pu apporter dans l'histoire de l'humanité. Donc je suis persuadé que si cette génération apprend la religion, ça va mettre fin au, entre guillemets, fanatisme religieux. Ça va mettre fin au mouvement, entre guillemets, j'aime pas ces termes, hein, j'aime pas, parce qu'ils sont utilisés contre nous en général, mais là on peut les retourner contre les méchants. Ça mettra fin au rigorisme religieux, au mouvement intégriste, aux personnes qui détournent la religion pour autre chose. Si 99,999% des musulmans pratiquent la religion de façon éclairée, basée sur le Coran, basée sur les hadiths, sur la compréhension des pieux prédécesseurs, on arrivera à un idéal de pratique qui nous permet de concilier spiritualité et civisme. Et là-dessus, je n'ai aucun doute. La connaissance apprise auprès de savants qui ne vont pas vers des extrêmes non plus, ben je pense que cette connaissance du juste milieu, c'est la solution, Inch'Allah, à tous les problèmes en rapport avec l'islam. Il ne suffit pas juste de condamner, de dire que nous nous désolidarisons de tel mouvement. Oui, il faut le faire, mais avec ça, qu'est-ce que tu apportes ? On entend souvent parler du problème de radicalisation des jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la radicalisation? Moi, je pense que c'est très simple. Il suffit qu'il y ait des personnes compétentes qui encadrent les jeunes et qui leur donnent les bonnes bases et qui évacuent ces mauvaises compréhensions de la religion, cette fausse idée véhiculée à travers le concept du djihad ou ce détournement des faits historiques de la sirat, pour essayer de convaincre les jeunes qu'il faut toujours lutter, il faut agresser ceux qui ont agressé les frères dans tel pays, ce qui va à l'encontre du comportement prophétique. Lisez tous les événements de la Sira. Le prophète n'a jamais porté atteinte à la vie d'une personne parce que à 3000 ou à 4000 kilomètres, il y a des gens de la même confession que cette personne qui a tué des croyants. Ça, c'est totalement incohérent et illogique. Et c'est pourtant ce qui est véhiculé, hein, à travers tout ce qui est perpétré, Wallahu musta'an. Donc je suis persuadé que par le biais de la connaissance, il y a la possibilité de rattraper ces erreurs et de protéger la jeunesse contre les dérives passionnelles, les péchés graves, mais également contre tous ces mouvements de radicalisation. Parce que si quelqu'un suit le Coran, honnêtement, ce Coran, Ikhwani Fillah, on le voit, c'est ajib, tout simplement. La lumière qui se dégage des versets du Coran, c'est exceptionnel. Regarde depuis combien de temps on s'est terminé Tabarakalladhi. Depuis combien de temps on dit que dernier dars sur Tabarakalladhi, dernier dars. Mais je vous dis très clairement, là on se limite à Ibn Kathir. Imaginez que si on était un peu plus professionnel, on avait plus de temps, on devrait brasser plus à tafsir. Qurtubi, Zamashkhari, et les plus connus à Sa'di et ainsi de suite. Et faire une synthèse, mais ça prendrait combien de temps? On se limite uniquement à Ibn Kathir. Et avec Ibn Kathir, rahimahullah, il y a tellement de choses à dire. On ne fait que traduire, hein, on véhicule le message de ces grands savants. Et on se rend compte que chaque verset est porteur d'une lumière. Et que si on arrivait seulement à prendre un verset et à l'appliquer dans notre vie, cette lumière-là serait suffisante pour guider nos pas. Et cette lumière-là guiderait nos pas vers Allah. Et cette lumière nous permettrait également de raffermir les liens de parenté. Ça nous permettrait également de montrer le meilleur du comportement islamique. Ce serait un motif, un sabab de hidayah, de guider pour tout le monde. Les sahaba, ils avaient pris toute la lumière du Coran et ils le vivaient. Ils devenaient donc des intermédiaires de guider à grande échelle, uniquement par leur comportement, par leur façon de parler, d'agir avec les gens, subhanallah. Donc, je reste persuadé que si on veut arriver à une réforme spirituelle, si on veut réformer notre communauté, cela transite obligatoirement par la connaissance religieuse. Et quand on parle de connaissance, il n'y a rien qui nous rapprochera plus de notre Rabb, de notre Seigneur, que la parole d'Allah. Ça, on est persuadé qu'il n'y a rien qui rapproche plus l'homme de son Créateur que la parole du Créateur, la parole d'Allah et ses versets. Le fait de les étudier, subhanallah, c'est une ni'ma, un bienfait de la part d'Allah. Quand on voit comment, je reviens un peu vers ce public en métropole, comment ils sont assoiffés de connaissances, c'est extraordinaire. Je n'ai honnêtement jamais ressenti une telle ferveur ailleurs qu'à Paris, à Lille, dans ce genre d'endroit où les personnes sont vraiment assoiffées de religion, qu'Allah leur accorde plus qu'ils ne demandent, Inch'Allah, et que cette connaissance pénètre leur poitrine et guide leurs pas, et nous guide aussi, qu'Allah nous accorde un peu de hidayah. Parce que je crains que ici on a un schéma qui est totalement opposé. On a beaucoup de savants, on a beaucoup de structures, mais on n'en veut plus. Il y a un trop plein. Malheureusement, les gens ne sont plus demandeurs de connaissances. On se sent, j'ai l'impression que beaucoup se suffisent de leur acquis en termes de religion, et on a l'impression que c'est bon, on a ce qu'il faut, on va continuer à avancer comme ça jusqu'à la mort. On n'a pas réalisé que la foi, ça se travaille. On a besoin de l'augmenter par les bonnes œuvres, et pour que les bonnes œuvres aient un sens, ça nécessite le ilm. Ton iman va augmenter quand tu vas augmenter ton quota de ilm. Ta crainte d'Allah va augmenter quand tu vas augmenter ton quota de ilm. Ton amour pour Allah, la recherche permanente du contentement d'Allah et ainsi de suite, ta sincérité, la dévotion, la constance, istiqama des bonnes œuvres, c'est-à-dire toutes les qualités qui nous manquent, je suis persuadé que cela transite par le ilm, par la connaissance religieuse. Qu'Allah nous accepte. Donc, Inch'Allah, on va essayer ce soir d'avancer encore un petit peu dans les derniers versets de Tabarakalladhi. On a lu les passages du verset, le verset 24, le verset 23 jusqu'au 27. Et juste pour rappel, 10 points concernant les derniers durous, juste pour se remettre un petit peu dans le bain. On est à une phase importante de la sourate Al-Mulk à partir du verset 16, où Allah Azza wa Jal s'adresse aux mécréants. Et premier point, lorsqu'Allah Rabbul Izzah dit « A'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ard fa'idha hiya tamur » Allah Azza wa Jal rappelle à ces personnes qu'à n'importe quel moment, Allah peut envoyer un châtiment du ciel. Également de le verset suivant « A'amintum man fis sama'i an yursila alaykum hasiba » Allah Rabbul Izzah peut punir les personnes de cette communauté comme il avait sévi les personnes d'autres oumams, d'autres communautés. Troisième rappel, فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ Allah Azza wa Jal invite l'homme à réfléchir sur le sort des peuples qui étaient venus avant eux. Où êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Et les Mufassirin disent que فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ On ne doit pas être comme ces personnes qui attendent de voir la punition d'Allah pour réaliser qu'ils étaient dans l'erreur. C'est-à-dire que chaque verset qui parle des mouchriquines, ça c'est, je pense qu'on avait bien insisté là-dessus, tous les versets qui sont des reproches au comportement des koufars, de ceux qui n'avaient pas la foi à l'époque, je pense à Sallam, on doit également, d'une certaine façon, profiter de ces versets, analyser quelles étaient les erreurs, point par point, de ces personnes, de leur désobéissance envers Allah Azza wa Jal, et quelle fut la conséquence de chaque désobéissance, à nous de prendre cela comme leçon et de ne pas prendre le même chemin, de ne pas répéter ces mêmes erreurs. Donc là, on ne doit pas être comme ces personnes qui attendent de voir le châtiment pour réaliser que la promesse d'Allah était vraie, on aurait dû faire telle chose ou telle chose. Point suivant, Allah Azza wa Jal invite ces personnes à réfléchir à ce qu'on a dit tout à l'heure. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, de le verset 18. En effet, ceux d'avant eux avaient crié au mensonge, quelle fut alors ma réprobation? Attention, comme on a vu certaines communautés qui ne croyaient pas et ils ont vu le châtiment d'Allah, on doit faire attention de ne pas s'éloigner de la religion, de ne pas douter, de ne pas se focaliser sur les réalités de ce monde. Il y a des fois où on est tellement pris dans les réalités du dunya qu'on finit par oublier les réalités du raïb, de l'invisible. Parce que les réalités du raïb, on ne peut pas le toucher, on ne les voit pas. Mais quand on parle de salaire, quand on parle de crise, quand on parle de tout ce qui nous touche directement, ben là, c'est comme si on prend conscience que ça, c'est vrai. Attention à ne pas commettre la même erreur que les mouchriquines. Eux, ils s'étaient déconnectés complètement de leur Seigneur. Ils voulaient même pas penser à Allah. Attention qu'on s'éloigne de notre Seigneur et qu'un jour il y a un châtiment et on se rend compte qu'on s'est éloigné, qu'on ne commençait, on commençait au fur et à mesure à ne plus trop croire qu'Allah nous protège. Autre rappel, c'est le cinquième point. Allah Azza wa Jalla cette fois-ci invite l'homme à méditer sur la perfection de sa création en méditant sur At-Tayr, awalam yaraw ila at-tayr fawqahum. De le verset 19, n'ont-ils pas vu les oiseaux en-dessus d'eux? Et là, on a eu l'occasion d'expliquer la perfection de la création d'Allah et on avait donné l'exemple donc cité de Tabarak al-Ladhi, les oiseaux, comment ils prennent leur envol. Ça, c'est vraiment Allah Azza wa Jalla qui a créé ces animaux de cette façon. Aucun scientifique ne pourrait donner vie à une créature et lui permettre de voler à telle hauteur, subhanallah. Juste pour anecdote, on voyait un petit reportage sur les réseaux sociaux aujourd'hui, en voyant la distance entre la terre et, entre guillemets, le ciel, on voit à quelle distance vole une montgolfière, ensuite un avion de chasse, et au-dessus d'un Boeing, juste au-dessous de la hauteur, on va dire 1000 mètres plus bas seulement qu'un Boeing, c'est l'envol des oies sauvages. C'est à je ne sais combien de kilomètres. À la Réunion, il n'y en a pas, bien sûr. Mais c'est pour avoir une idée, comment est-ce que ces oiseaux peuvent voler à 2000 ou 3000 kilomètres, une telle altitude, et on connaît le froid. Mais ça, c'est la création d'Allah. Et ce verset, c'est un verset clé, et ça, on le retrouve dans la plupart des versets du Coran, dans la plupart des chapitres, où Allah rappelle à l'homme qu'il se doit absolument de méditer sur la création d'Allah. Ça, ça renforce la foi. Et comme on avait dit, le croyant, c'est celui qui observe. Bien sûr, le croyant, c'est celui qui baisse son regard. On ne nous demande pas d'observer tout. Il y a des moments où on baisse le regard, mais quand il s'agit de la création d'Allah, la manifestation de la puissance d'Allah dans la création, on doit ouvrir les yeux et voir, regarder avec le cœur et réaliser que ça, c'est هَذَا خَلْقُ اللَّهِ, c'est la création d'Allah. Que ce soit un coucher du soleil, qui peut me dire la dernière fois qu'il a admiré un coucher du soleil? Il y a peut-être un coucher du soleil à droite, on préfère regarder les notifications de Facebook sur notre portable. On vit vraiment dans un monde superficiel. Qui récemment est parti à Sillaos, ou est parti au Piton des Neiges et admirer la création d'Allah, ou même à la plage, ou peu importe, quelle que soit la nature qui nous entoure, admirer la création d'Allah. Ça, c'est un point essentiel, parce que méditer sur la grandeur d'Allah, dans sa création, ça nous permet de renforcer notre iman en Allah. Et ça va nous donner plus de sadad, plus de fermeté dans Tawhidullah et fil uluhiyya, dans l'unicité d'Allah, dans le culte, c'est-à-dire dans l'ibada, dans les bonnes œuvres. Point suivant de la Sourate Al-Mulk qu'on avait vu juste avant cette interruption. On a vu également des reproches à Amman hadha alladhi huwa jundun lakum, le verset 20, que Allah Azza wa Jalla reproche aux mushrikeen, rappelle que si ils sont dans une situation difficile, quelle que soit la complexité de la situation, le seul qui peut leur venir en aide, c'est Allah, qui n'oublie jamais. Et c'est un rappel pour nous aussi, quelle que soit la situation qu'on vit, quelles que soient les difficultés, on ne doit jamais oublier qu'il n'y a que Allah, uniquement Allah, qui peut nous venir en aide. Que ce soit par rapport à un problème extérieur ou un problème intérieur. Quelqu'un a un problème de santé, il s'en remet à Allah. Quelqu'un est menacé par un ennemi ou quelqu'un qui te veut du tort, qui veut te faire du mal, tu t'en remets à Allah, tu demandes l'aide uniquement à Allah. Et le verset 20, il se conclut par « Inil kafiruna illa fi ghurur ». En vérité, les mécréants sont dans l'illusion complète. Vous vous rappelez, on avait plus ou moins développé le terme « ghurur ». On a dit qu'Allah nous protège du « ghurur ». L'illusion, c'est lorsqu'une personne a intégré les valeurs de ce « dunya » et il va cogiter toute sa réflexion et sa perception du monde sera basée sur ses acquis par rapport à ses cinq sens. Et il met de côté toute notion de spiritualité, bien cette personne vit dans l'illusion. Parce que la personne qui se base uniquement sur les règles de ce monde, et il oublie les textes, bien dans les situations où il doit faire un sacrifice du dunya pour venir à la mosquée, ou alors abandonner un plaisir, quelque chose qui lui apporte un certain plaisir pour Allah, il ne trouvera aucune source de motivation. Parce qu'il a intégré le plaisir immédiat. Ça fait partie du rouleau, de l'illusion. Il y a l'illusion du kufr. Quand quelqu'un est dans le kufr, ben, il ne voit pas la vérité. Mais il y a également l'illusion des pulsions et des passions. Quand quelqu'un reste dans ses passions et à chaque fois qu'il a envie de faire quelque chose, il met de côté son iman et il fait ce qu'il a envie de faire. À un moment donné, c'est ce qu'on appelle le hawa, son nafs, si on pourrait dire, le nafs va prendre le dessus et il va être dans cette illusion. Il y aura un nuage permanent autour de lui qui l'empêche d'avancer vers Allah parce qu'il reste emprisonné de ses passions et de ses pulsions. Donc ça aussi, on doit méditer sur ce verset pour ne pas répéter les erreurs de ceux qui vivent dans le ghurur, dans cette illusion complète. Ensuite, point suivant, on avait vu Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqan. Rappelle également que si Allah reprend la subsistance, qui est-ce qui vous donne à manger? Et ça, c'est une règle à retenir concernant tous les ni'mas, tous les bienfaits. Celui qui donne le rizq, c'est Allah. Celui qui donne la vie, c'est Allah. Celui qui donne la santé, c'est Allah. Celui qui t'accorde une épouse, c'est Allah. Celui qui t'accorde des enfants, une famille, c'est Allah. Et si, par rapport à notre comportement, Allah reprend la santé, qu'Allah nous protège, ou qu'Allah reprend un bienfait qu'il nous a accordé, qui nous le redonnera? Un rappel pour l'homme, attention, on ne désobéit pas à Allah Azza wa Jal parce que c'est notre Seigneur avant tout, parce qu'on se doit de se soumettre à lui, mais n'oublions pas également tout ce qu'Allah nous a accordé, n'oublions pas qu'on se doit d'être reconnaissant et ne pas être parmi les ingrats. On a obtenu plein de choses et on désobéit à Allah, c'est la plus grande des ingratitudes. Et attention également, tout ce qu'Allah t'a accordé, n'oublie pas qu'Allah peut les reprendre. Donc le rappel est fait concernant le rizq, c'est Allah qui donne la subsistance, si Allah reprend, qui vous accordera cette subsistance? Ça c'était le verset 21, où quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'il s'arrête de fournir son attribution? Et là la conclusion, mais ils persistent dans leur insolence et dans leur répulsion. Ça on avait développé l'insolence, le takabbur, la fierté, l'orgueil, ce sont là les défauts, on va dire, qui distinguent les mouchriquins. Ils ne veulent pas voir la vérité. Ils ne voulaient même pas entrevoir la vérité. Ils se plaisaient dans leur système. À nous de faire attention, de ne pas rester, comme il dit en créole, d'un fait noir. À nous de faire attention, de ne pas fermer les portes de la lumière. On se doit de voir la vérité et on ne doit pas s'enfermer dans un système qu'on crée nous-mêmes et on s'y plaît et du coup on n'a plus besoin du dîme, on n'a plus besoin de la pratique religieuse. Peut-être qu'on va trouver un certain bonheur dans le cercle familial sans aller à la masjid, sans pratiquer la religion, mais ça restera une illusion. Et lorsque la mort arrive, c'est là qu'on se rend compte que on s'était complètement trompé de chemin. Il y a des gens qui ont les moyens, je quitte un peu le verset, il y a des gens qui ont les moyens, qui réussissent dans la vie, ils ont énormément de bienfaits et ils ont créé un monde autour d'eux, sur le plan professionnel, sur le plan familial, dans le cercle d'amis, ils vivent dans une société fermée et il n'y a pas de place pour leur robe dedans malheureusement. Et ils pensent que c'est bon, on est heureux, on est en bonne santé, j'ai de l'argent, la fin du mois tout va bien, n'y a pas de manque, mes enfants ils sont en parfaite santé, réussissent à l'école, je suis heureux. Ça, ça fait partie également de l'illusion. Tu t'enfermes dans un monde et tu penses que tu n'as besoin de rien. Et tu finis même par te dire que de toute façon, moi, je fais de mal à personne. Je ne suis pas celui qui va embêter les gens, qui va faire la médisance ou la calomnie, qui va insulter. Moi, je vis ma vie et je me suffis. Je ne prie pas, d'accord, mais il y en a qui prient, qui font des bêtises, donc je ne prie pas, certes, mais je suis tranquille, je n'embête personne. Ça aussi, c'est un piège de Shaitan. On ne doit surtout pas nous enfermer dans ce genre de système, ne pas faire preuve de fierté, d'orgueil et ne pas rester dans l'illusion. Ensuite, on avait vu, et ça c'est un verset clé, jusqu'à la fin du verset, c'est le 22, qui est donc mieux guidé, celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Et là on avait expliqué que le mu'min, pour rester sur le droit chemin, sur le sirat al-mustaqim, il a énormément d'efforts à faire. Rester sur le droit chemin, c'est le sacrifice d'une vie. C'est pour ça qu'on demande ihdina, ihdina, ihdina. Rester avec fermeté dans le droit chemin. Il est tellement plus facile de se laisser aller aux appels du nafs, aux pulsions. D'accord ? Tu es un jeune époux, 2 ans de mariage, et tu es séduit par quelqu'un d'autre. Il est tellement facile de se laisser aller vers une relation sentimentale, amoureuse, d'un mois, de 2 mois, trompant sa femme ou autre chose. C'est des choses qui apportent un certain bonheur intérieur, mais c'est un bonheur illusoire. C'est Shaitan qui te fait croire que c'est magnifique, que c'est beau. Et donc, se laisser glisser vers les péchés, c'est beaucoup plus facile que de rester ferme dans le droit chemin. Tu te dis non, je ne peux pas faire, c'est le zina, c'est haram. Tu te dis non, je contrôle mon regard. Tu te dis non, je reste fidèle à mon épouse, et ainsi de suite. Rester ferme, c'est beaucoup plus difficile. Et il est beaucoup plus simple, et le nafs aimerait tellement qu'on se laisse glisser vers les passions. Mais non, le mu'min, il doit faire les efforts pour rester dans le droit chemin. On a vu que celui qui a passé sa vie dans le droit chemin, l'aboutissement de l'au-delà, c'est, Ibn Kathir dit, il reste, il continue à être dans le droit chemin jusqu'à l'accès au paradis. C'est-à-dire qu'il va franchir toutes les étapes de l'au-delà, comme il était sur un chemin rectiligne de ce dunya, de le akhira, de l'au-delà, il passe les étapes de l'au-delà d'une façon, il les enchaîne étape par étape en les réussissant jusqu'à l'accès, inshallah, au paradis. Ça, c'est un des aboutissements d'une vie de droiture. C'est l'ouverture également de le akhira. Alors que celui qui, de ce monde, allait à droite, à gauche, il piochait à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose sans limite de halal et de haram, mais cette personne, le jour de la résurrection, ce sont les personnes qui auront les plus de difficultés, qu'Allah nous protège. C'est donc un rappel également pour nous. Et on s'est arrêté à là avant l'interruption. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est le verset 23 et 24. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعْلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dit, c'est lui qui vous a créé. Lui, c'est Allah. Et qui vous a donné, lui, les yeux et les cœurs. Mais vous êtes rarement reconnaissants. Ibn Kathir, rahimahullah, dit qu'Allah, Rabbul Izzah, rappelle à l'ensemble de sa création que la vie, c'est un ni'ma de la part d'Allah. Le fait d'exister, le fait d'être vivant, c'est déjà un ni'ma de la part d'Allah. Et petite parenthèse, attention à celui qui reprend une vie, ça c'est un des péchés les plus graves. Et on a du mal à se détacher des événements parce que c'est quelque chose qui nous met hors de nous normalement et qui nous porte atteinte indirectement de notre pratique par rapport au regard, par rapport à ce que les gens ils pensent de la religion. Mais juste un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit que le jour de Qiyama, la personne qui a été tuée injustement se présentera, ce sera le premier jugement, les premiers cas concernant les péchés qui seront présentés devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal, c'est fi dima, le sang versé injustement. Et donc la personne qui a été tuée injustement et donc oui, cette personne se présentera devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal avec ses blessures et ses plaies, et il tiendra son meurtrier par la main, il l'amènera devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal, dira ya Rabb salhu fima qatalani, ay is'alhu, demande-lui ya Allah pourquoi est-ce qu'il m'a tué, pourquoi est-ce qu'il a repris la vie, c'est-à-dire la vie qu'Allah a accordée. cette vie qui est sacrée, qui a le pouvoir, qui se permet de l'enlever. Personne qui met une bombe ou qui fait des trucs comme ça et qui prend la vie d'innocents au nom de quoi? Qui lui a donné l'autorisation? Regardez, enfin, comparaison, excusez-moi, la comparaison est décalée. Quand on procède au sacrifice d'un animal pour manger, pour consommer, on ne peut pas reprendre la vie d'un animal sans prononcer le nom d'Allah. Il y a un rituel. Ça, c'est sacré, cette vie. On prononce le nom d'Allah pour reprendre. Et là, on parle d'insan, d'un être humain. Et les personnes qui répandent la mort de cette façon, c'est la pire des injustices. Et les premiers à être interrogés le jour de Qiyamah par rapport au péché, ce seront ces personnes. Et nous serons tous témoins contre eux, Inch'Allah. Nous serons tous témoins, et ça je l'ai dit en métropole, parce que notre séminaire a été décalé par rapport aux événements. Vous imaginez, faire un séminaire au mois de janvier, une semaine après les attentats, c'était tout simplement impossible. On a annulé le voyage, on a dû reporter. Bref, on va dire que c'est une petite conséquence. Mais ceux qui vivent au quotidien, de façon indirecte, les conséquences de ces exactions, mais je dis que toutes ces personnes seront des hujja alayhim, témoigneront contre ces gens, comment est-ce qu'ils ont mis les croyants dans des situations extrêmement, extrêmement difficiles. Je pense à ces sœurs voilées qui prennent le métro pour aller au travail et tout. Comment elles se font insulter? Comment est-ce qu'elles se font dévisager? C'est insupportable. Mais en même temps, c'est un sacrifice énorme et ils auront des hauts degrés, Inch'Allah, de le paradis. Donc je reviens. La vie, قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ. Dit, c'est lui qui vous a créé. Nous sommes des créatures d'Allah. Et nous sommes vivants par le ruh, par l'âme qui existe dans notre corps. Quand le ruh quitte le corps, on n'est plus vivant. Et le ruh quitte le corps avec l'autorisation d'Allah. L'ange de la mort, lui-même, alors qu'il enlève des milliers et des dizaines de milliers d'âmes tous les jours, dans un hadith, il dit qu'il n'a pas le droit de retirer le ruh d'une personne sans l'autorisation d'Allah, sans l'ordre d'Allah. Alors que c'est un des plus grands des malaïka. Donc la vie, ikhwan fillah, c'est sacré. Hiya ni'matun min Allah ibtada'a khalqakum ba'da an lam takunu shay'an madhkura. Allah nous a enlevé du al-adam, de l'inexistence vers la création. Donc, et puis si on devait parler du miracle de la vie, ce serait un autre chapitre, ça ne se terminerait jamais. Comment est-ce qu'Allah donne la vie? Comment est-ce que, subhanallah, dans le ventre de la maman, tout ce qui va se passer, les étapes entre la fécondation de l'utérus et, subhanallah, comment est-ce que les os se développent, la chair, la peau, et, subhanallah, hada khalqullah. On pouvait réunir les scientifiques de tous les pays, de toutes les grandes universités, et demander à ces gens, créer une mouche. Personne ne serait capable de créer l'aile d'une mouche. Reproduire, oui. Cloner, oui. Mais moi aussi, j'ai fait des photocopies. Noir et blanc, couleur, scanné, en PDF, je sais faire. Mais créer, je ne sais pas créer. Créer à partir de rien, ça c'est le miracle de la vie. On appelle ça le miracle de la vie, on peut appeler ça également le mystère de la vie. Et ce qui est magnifique, c'est que la vie, c'est déjà un point de blocage pour les scientifiques et pour les philosophes. Ces mêmes philosophes qui parfois avancent des thèses un peu farfelues concernant l'islam, la soumission des femmes, ainsi de suite. Bref, c'est un autre sujet. Mais ces mêmes philosophes devraient réfléchir au miracle et au mystère de la vie. La question qui bloque tout le monde, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ça bloque tout le monde, philosophes et scientifiques. C'est comme le truc entre la poule et l'œuf. Qu'est-ce qu'il y a eu avant, la poule ou l'œuf? D'accord? Donc on pourrait débattre des années, on ne trouvera pas de réponse. Ils vont vous dire, il y a eu le Big Bang, il y a eu telle chose. On va dire que ça c'est des asbab, Allah. Mais ça c'est cité dans le Coran, ces phénomènes. Allah a créé, a démarré la vie de cette façon. Mais le système, l'organisation de ce système, ça ne veut pas dire que c'est un système autonome. Qui a démarré? Qui a enclenché? Et pourquoi tout a démarré? Et pourquoi il n'y a pas plutôt eu rien du tout à l'Adam? C'est pas resté le noir total. Ça amène obligatoirement vers l'existence d'un créateur. Ça, c'est le point de blocage de tous les scientifiques, mais également des personnes qui aiment bien réfléchir, qui aiment bien philosopher. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Allah nous a donné l'ouïe, on peut entendre. إِخْوَانِ فِي اللَّهِ. Entendre, c'est ni'ma min Allah. Voir, subhanallah, ni'ma min Allah. Une personne qui la protège de la cécité, de ses maladies. Une personne qui est atteinte même de glaucome ou d'un, comment on appelle ça, tension dans les yeux, enfin le nom ne revient pas, il doit subir une petite intervention. Pendant un jour seulement, il garde un pansement. Comment on appelle? Cataracte. Qu'Allah nous protège. 4 heures, un jour bas. Le médecin dit qu'il faut garder quelque chose sur l'œil. Un jour, tu vois d'un seul œil, où tu ne peux pas prendre le bus, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas faire tel truc, tu te rends compte que c'est impossible de vivre. C'est impossible de vivre comme ça. Et là, tu te rends compte que voir, c'est ni'ma min Allah. C'est vraiment un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal. Mais bien sûr, comprenez mes chers frères, on a 40 minutes, quand Allah rappelle qu'il nous a donné l'ouïe, entendre, qu'il nous a donné la vue, ou al-af'ida, les cœurs, et ça c'est un autre débat, un autre sujet, Allah attend de nous la reconnaissance. Ash-shukr qalilam. Malheureusement, qalilam ma tashkurun. Mais vous êtes rarement reconnaissant. Et les mufassirin disent, comment être reconnaissant envers Allah pour ses ni'mas? Un, ash-shukr bil lisan, remercier Allah, faire les bonnes actions, parce que l'ibada c'est la plus grande preuve de gratitude, et utiliser ces ni'mas dans le ta'at de l'obéissance. Regarde ce qui est licite. Si Allah t'a accordé la vue et tu utilises cette vue pour regarder ce qui n'est pas bien, tu n'as pas été reconnaissant. Allah t'accorde quelque chose que d'autres n'ont pas et tu l'utilises à mauvais escient. Pareil pour tous les bienfaits. Sur ces, à partir de ces trois bienfaits, on peut ouvrir le champ de tous les ni'mas qu'Allah nous accorde. Et wal-af'ida ay al-uqul wal-idrak, l'intelligence, la possibilité de comprendre, la possibilité d'arriver à un esprit, d'arriver à une situation où on peut réfléchir, cogiter, analyser. Tout ça, ce sont des bienfaits de la part d'Allah. L'homme intelligent, c'est celui qui va utiliser sa matière grise, son intelligence, pour trouver la motivation pour obéir à Allah Azza wa Jal. Celui qui médite sur la création d'Allah, celui qui lit les textes du Coran, qui médite sur la profondeur des versets, qui comprend son sens et qui les met en application, qui voit la grandeur d'Allah, la manifestation de la grandeur d'Allah à travers sa création, à travers Kalamullah, à travers sa parole, ça c'est un homme intelligent. L'homme intelligent, ce n'est pas celui qui aura eu Bac plus 15 et qui sera PDG, qui aura 15 000 euros par mois, qui aura une salle remplie de diplômes. Ce n'est pas ça. Et qui est dans la perdition, qui ne se prosterne pas une fois devant Allah. Il est intelligent, certes. Il a un QI supérieur à deux ou trois êtres humains en même temps. Mais cette intelligence-là, il ne l'a pas utilisée de façon intelligente, avec clairvoyance. Alors que le croyant, même s'il n'a pas atteint ce niveau d'études, mais ses yeux, ses oreilles, son cœur, il utilise ses bienfaits pour comprendre l'objectif, le but de sa vie. Et il va développer ce uboudiyah, cette adoration d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un homme intelligent. Et là, il a été reconnaissant pour les bienfaits qu'Allah lui a accordés. Mais malheureusement, peu de gens. Hey, ma aqal, ma tasta'amilouna hadhihi al-quwa. Peu de gens utilisent ses bienfaits, ses ni'amas, dans l'obéissance fit ta'a wa imtithali awamirihi wa tark zawajiri, dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans l'éloignement de ce qui est mauvais. Hada. On va s'arrêter là pour ce soir, inshallah. Donc on a pu revoir un petit peu, il fallait se restituer, parce qu'on ne peut pas conclure tabarakalladhi si on ne sait plus où est-ce qu'on est. Donc on a vu à partir de la moitié, on se restitue dans l'al-mulk, on a vu les reproches qu'Allah a fait aux mushrikin. Maintenant, j'ai oublié de dire, Al-Haq, c'est ça. Allah reproche aux mushrikin. Vous pensez, ne pensez-vous pas, réfléchissez, analysez, vous faites erreur. Celui qui vous aide, c'est Allah. Vous faites erreur. N'oubliez pas que celui qui vous nourrit, c'est Allah. Maintenant, Allah va donner les vérités. Dis, Qul, c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous donne la vie. C'est lui qui vous donne ses bienfaits. Et dans les versets suivants, c'est Allah qui vous a répandu sur la terre. Et, wa ilayhi tuhsharun. Et vous retournez vers lui. Donc, ce sont là les vérités qui vont être distillés, qui vont être annoncés dans les derniers versets de la sourate Al-Mulk, Inch'Allah. On va essayer d'avancer encore vendredi après vendredi, verset par verset, jusqu'à Inch'Allah compléter la sourate Al-Mulk, qu'Allah donne la possibilité de comprendre les quelques paroles qui ont été dites ce soir, de mettre en application dans notre vie, de nous rappeler de la grandeur d'Allah, des bienfaits, et de ne pas prendre le chemin de ceux qui se sont déviés du droit chemin, de ne pas adopter ces comportements qui nous éloignent d'Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah donne également la possibilité, ça c'est le premier point qu'on aurait dû citer, mettre en pratique le hadith de base concernant Tabarakalladhi, qui est de le lire tous les soirs avant de dormir. Le mu'min ne dort pas avant de lire Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. On fait en sorte que jusqu'à notre mort, on lit al-mulk tous les jours, tous les soirs avant de dormir, avec Inch'Allah, l'espoir que Tabarak al-Ladhi intercèdera pour moi, Inch'Allah, dans la tombe, mais peut-être même, Inch'Allah, dans le delà, comme les hadiths du relatum à tawfiq illa billah. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, de façon régulière, vendredi prochain. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin.